René Pujol, Le Soleil Noir, troisième partie. Monsieur Sinécarmieux s'engouffrait dans les carrières en soufflant fortement, à la manière d'un phoque. « La première bouffée d'air frais que je respire, dit-il. C'est bon, ça réconforte, j'en prends des litres, des mètres cubes. Vous êtes mon bon génie, monsieur Dantenot. C'est de la pierre à bâtir qu'on extrait ici, n'est-ce pas? Je ne suis pas les géologues, mais je m'y connais tout de même un peu. Ah, les géologues, il ne restera pas un morceau de leur roche jurassique, hercynienne, etc. Tout sera de la roche ignée, ignée simplement. Vous me conduisez loin, monsieur Dantenot. Excusez, j'ai les pieds en sang. » La bougie qui éclairait le refuge des Sternebal apparut comme un point jaune dans l'obscurité. « C'est là ?» demanda M. Sinécarmieux. « Ah, je vais pouvoir manger. Manger !» Sa voix nasillarde avait des inflexions attendries. Il renifla à grand bruit. « Je pleure. Véritablement, je pleure. C'est la faim qui me fait pleurer. C'est une émotion physiologique. » Monsieur et Madame Sternebal, inquiets, se demandaient quel était cet arrivant à voix de phonographe. Instinctivement, ils s'étaient jetés au-devant de leur fille comme pour la protéger contre un danger possible. Je vis ma belle-mère esquisser un furtif signe de croix. « C'est Roger !» cria Jeanne, qui me reconnut la première. « Ma présence rassura tout le monde. » J'expliquai brièvement comment j'avais rencontré M. Onésime Sinécarmieux. « Monsieur est astronome ?» demanda M. Sternebal. « À l'observatoire de Flarac, trois dômes blancs, trois oranges dans une touffe d'herbe. » « La comparaison est saisissante, » dit M. Sternebal. « Je suis un peu de la partie. »« Ah ah, professeur de sciences ?»« Je suis opticien, rue Sainte-Catherine. » »« Enchanté, » dit M. Sinécarmieux. « Aïe, permettez que je m'assoie. J'ai les pieds en sang. Je viens de Bordeaux par la route. » « C'est un record. » « Un record marathonien. Je ferai une communication à l'Académie des sciences si ce n'était la fin. » « Mais non, non, j'ai promis à votre gendre, Évoé, nous allons manger. » Je déballai mes richesses, comme les conquérants de jadis déballaient leur butin au retour d'une expédition victorieuse, au milieu de l'enthousiasme le plus exubérant. Le cheval aveugle piaffait pour se mettre à l'unisson. Monsieur Sinécarmieux abrégea l'inventaire. Il avait déjà grignoté plusieurs biscuits, mais cela n'avait servi qu'à exaspérer sa fringale. Il réclama un dîner complet. Le repas fut substantiel, mais sans nous satisfaire complètement, car nous dûmes manger sans pain. « La raison m'ordonne de m'arrêter, » dit M. Sinécarmieux. « J'engloutirais volontiers ce jambon, mais une indigestion s'en suivrait. » Or, je ne veux plus souffrir pendant les quelques heures qui nous séparent d'un nouvel événement. M. Sternebal écoutait avec attention. « Pourquoi fait-il si chaud dehors ? » demanda-t-il. M. Sinécarmieux s'agita. « Comment ? Vous ignorez les causes ? Puis-je parler, M. Dantenot ? C'est si intéressant. » Il me suppliait les 10 doigts dans sa barbe. Je pressentis que ce qu'il allait dire porterait un rude coup à la tranquillité de Jeanne et de sa mère. Mais il me tardait tant d'être un peu renseigné que j'acquiesçai. Nous étions groupés autour de la bougie, les yeux fixés sur le petit homme hirsute. Sa voix nasillarde s'éleva. Par où faut-il que je commence? Vous n'êtes pas ignorant des mouvements des astres. Gravitation, giration, dit M. Cernebald d'un air entendu. Rien n'est immobile dans le désert céleste. Les étoiles, les planètes, les satellites de toute taille, les bolides, les comètes, tout file à des vitesses vertigineuses. Les paraboles s'enchevêtrent, les courbes se rejoignent, les ellipses s'entortillent. Il y a des milliers, des centaines de milliers de mouvements dans l'éther. Il faut que cela soit admirablement réglé, s'extasia M. Sternebald. Inutile! Des milliards de lieues séparent les étoiles. Il leur faut des centaines de siècles pour se rapprocher sensiblement. Les petits virent autour des moyens, les moyens autour des gros et les gros autour des monstres incandescents. Pourquoi cette bougeotte intersidérale? Giration, gravitation, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur. Oui, c'est cela. Cela paraît être cela. Jusqu'à ce qu'un individu plus malin que Newton ait échafaudé une théorie plus ingénieuse et soit assez chanceux pour trouver dans la nature des confirmations pratiques. On trouve tout ce qu'on veut dans la nature, et même ce qu'on ne veut pas, avec de la patience et de la veine. Il réfléchit un instant à ce qu'il venait de dire. J'aurais pu écrire cela, reprit-il. Mais mon avenir eût été brisé. Il déviait, je le remis dans son sujet. Parlez-nous de la chaleur, monsieur Sinécarmieux. J'y viens. Mais cela m'exaspère quand on me rebat les oreilles avec les mêmes antiennes. Ordre parfait, mouvement parfait, trajet parfait. Tout parfait, quoi. Sauf ce qui nous arrive. De l'ordre dans le monde? Alors, pourquoi du radium dans le soleil? De l'uranium ailleurs? De l'oxygène ici? De l'azote là? Du fer sur la Terre? De l'aluminium dans telle autre planète? Désordre, gabegie, zizanie. Vous me troublez, dit M. Sternebald. Le petit astronome fit mine de s'arracher la barbe. Je suis un anarchiste de la science, monsieur. Je prétends que tout va à volo dans le monde astral. Dans quelques millions d'années, l'étoile polaire indiquera peut-être le sud. Quant à la Lune, nous l'aurons, depuis, semée en route. Elle fera la belle autour d'une autre sphère qui nous l'aura chipée au passage. Nous ne serons pas là pour voir ça, dit M. Sternebald. Nous ne verrons même pas le dernier quartier de la Lune actuelle. Monsieur, fis-je courroucé. Pardon, monsieur Dantonot. Excusez-moi. Il continua, avec une volubilité étourdissante. Nous autres, terriens, nous dépendons du soleil. Il fait la pluie et le beau temps chez nous. Il n'a pas toujours été tendre à notre égard. Il a fait le déluge. Il a vidé le golfe aquitanien. Depuis longtemps, pourtant, il se montrait gentil, de température sage et constante. Sa cuisine personnelle était parfois mal réussie. Il en résultait des cataclysmes chimiques au sujet desquels les savants échangeaient des injures. Mais c'était des amusettes, pas plus. Le plus grave, c'était la déviation du système entier vers la constellation de la Lyre. C'est au cours de cette déviation que le soleil s'est cogné contre une étoile morte. Une étoile morte? Un soleil noir, si vous préférez. Les astres naissent et meurent. Seulement, ils vivent un milliard de siècles. Il paraît que ce n'est rien par rapport à l'éternité. Alors, quand les astres sont morts, ils ne brillent plus. On ne les distingue plus dans l'obscurité infinie. Ils circulent discrètement et, ma foi, sans souci des accidents. le 25 décembre. Notre soleil brillant s'est rencontré avec un soleil noir. Le télescopage a dû faire du bruit, mais nous n'avons rien entendu. Un de mes collègues a simplement distingué une tache promptement effacée. Le soleil noir était probablement petit. Rien ne s'est brisé, mais la température s'est accrue, car tout choc engendre de la chaleur. M. Sinécarmieux se leva pour mieux gesticuler. C'est la faillite de la physique et de la thermodynamique. Il y a des lois sur la vitesse de transmission de la chaleur. Elles sont fausses. Tout est faux. Tout est faux. Nous ne savions que dire. Mon esprit était infiniment troublé. Plus heureuse que nous, Madame Sternebal ne comprenait guère, car elle s'endormait. « La température monte, dit M. Sinécarmieux. Elle va monter encore. Elle montera jusqu'à ce que nul n'existe pour constater qu'elle monte toujours. Les nuées solaires avaient 8000 degrés. Elles en ont peut-être 20 ou 25 000, ou davantage. Dois-je insister sur les conséquences? Vous les prévoyez comme moi. Il est donc inutile de rien dissimuler. On va mourir collectivement sur Vénus, sur la Terre, sur Mars. La civilisation sera détruite en même temps que les hommes. Mais l'élite aura l'ironique consolation de penser que les planètes rajeunissent, que cette chaleur les ravigote et que cette catastrophe double la durée de l'existence de notre groupement, qui est cependant un des plus mesquins de la création. Des insolations d'abord, puis des incendies, puis des ébullitions, puis des volatilisations. Nous assisterons aux incendies, peut-être aux ébullitions, sûrement pas au reste. Sera-ce long ? Demanda M. Sternebal. Interrogez les physiciens. Ils fouilleront leur table de logarithmes et, en se pressant un peu, ils auront peut-être le temps de publier de nouveaux calculs erronés. Mais la plus sage devise est de ne se préoccuper de rien, de manger à sa faim, de boire à sa soif et de dormir en attendant l'insensibilité finale. Le front dans nos mains, nous l'écoutions. Quand il se tut, le silence nous écrasa.